Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au début de l'année 1970, Bronislav Horowitz et Pierre Cipriot proposaient aux auditeurs de France Culture une lecture d'extraits à plusieurs voix du roman de Colette, Le blé en herbe, à l'occasion de sa réédition dans la collection des classiques de Garnier Flammarion. De ce roman d'apprentissage amoureux, sensuel et sexuel, publié en 1923, l'un des titres les plus célèbres de Colette, adapté au cinéma par Claude Autant-Lara en 1953, nous ne dirons pas ici davantage, puisque nous allons entendre dans l'archive qui va suivre Pierre Cipriot en donner une excellente et très complète présentation. Une émission à laquelle la romancière Germaine Beaumont apportait son regard sur le blé en herbe et sur l'écriture, le sens du dialogue de Colette, dont elle avait été l'amie. Germaine Beaumont, romancière, qui fut en 1930 la première femme à obtenir le prix Renaudot, traductrice de Truman Capote, de Conan Doyle et du journal d'un écrivain de Virginia Woolf, mais aussi à la radio, productrice aux côtés de Pierre Billard de la légendaire émission Les Maîtres du Mystère. Un livre des voix, Le blé en herbe de Colette, une émission diffusée la première fois le 2 janvier 1970 sur France Culture.
Un livre des voix. Aujourd'hui, Le blé en herbe de Colette, édition Garnier Flammarion. Lecteur Douchka, Claude Pasquier, Pierre Delbon et Serge Duché, avec un témoignage de Germaine Beaumont. C'est une émission de Bronislav Horowitz, présentée par Pierre Cipriot.
Vous allez entendre ce soir dans Un livre des voix une émission que Bronislav Horowitz consacre au livre de Colette, au célèbre livre de Colette, Le blé en herbe, qui vient d'être réédité dans les classiques Garnier Flammarion avec une préface de Claude Pichois. Je rappelle que Le blé en herbe fut écrit par Colette en 1922-23. Il fut écrit d'abord pour paraître dans le journal Le Matin du 29 juillet 1922 au 31 mars 1923, en courte chronique, en récit espacé, qui paraissait tous les 15 jours environ, puis il fut terminé par Colette, en dehors de la publication en quotidien, pour paraître en livre, car la direction du Matin ne voulait pas que cette idylle d'enfance se termine en une élégie passionnée. Phil, comme Daphnis, après avoir tout appris de l'habileté féminine déployée par Madame Dalray, va en effet faire partager son bonheur de vivre à la petite compagne de ses jeux d'enfance, à 20 ans. Et alors, écrit Colette, il entendit la courte plainte révoltée, perçut la roide involontaire, mais le corps qui l'offensait ne se déroba pas et refusa toute clémence. Je crois qu'on ne saurait mieux dire. Le blé en herbe, c'est donc le roman des premières amours, des premières vacances, où l'on compte les jours, les heures, car chaque moment qui passe est l'occasion d'un sentiment nouveau, amour, joie, angoisse. Tout cela vécu avec intensité par de jeunes êtres, à la recherche d'eux-mêmes, car un peu plus adultes chaque jour. Ils ne peuvent se reconnaître dans une figure finie, précise. Ils changent, et tout change avec eux. Et l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, sans avoir besoin de se le dire, tant il est évident, semble redoubler par cette transition qu'ils vivent tous les deux. Ils changent par la force des choses, et ils ont l'impression qu'ils se modifient l'un l'autre. Ce livre poétique et pudique, profondément intense, ne déchiffre qu'une seule relation indéfiniment répétée, la découverte de deux êtres, de deux corps, de deux sensibilités, de deux sensualités mêlées à la pénitude d'une belle plage pendant un été en feu, quand on peut mettre à la clarté du soleil des parties voilées de son être. Ainsi, ce livre nous apparaît comme le monde le plus varié qui soit, le monde de la jeunesse, le monde de la beauté, un éclair qui pourra illuminer des années qui qui pourra illuminer les années de maturité de Phil et de Vinca.
Elle le suivit sans mot dire dans le sentier de la douane en corniche à flanc de falaise. Il foulait l'origan poivré et les derniers parfums du mélilot. Au-dessous d'eux, la mer claquait en drapeau déchiré et léchait onctueusement les rocs. Sa force repoussait vers le haut de la falaise des bouffées tièdes qui portaient l'odeur de la moule et l'arôme terrestre des petites brèches où le vent et l'oiseau sèment en volant des graines. Ils parvinrent à leur retraite sèche, bien abrités sous une proue de rochers, air sans rebord, d'où l'on semblait voguer vers la haute mer. Philippe s'assit à côté de Vinca, qui appuya sa tête à son épaule. Elle paraissait épuisée et ferma aussitôt les yeux. Ses joues brunes, roses et rondes, sablées de grains roux, veloutées d'un duvet ras d'une suavité végétale, avaient pâli depuis le matin, de même que sa bouche fraîche, toujours un peu fendillée comme un fruit mordu par l'ardeur du jour. Après le déjeuner, au lieu d'opposer aux plaintes de son amoureux d'enfance son bon sens habituel de petite bourgeoise intelligente, têtue et douce, elle avait éclaté en larmes, en aveux désespérés, en amères constatations qui haïssaient leur jeunesse, l'avenir hors d'atteinte, la fuite impossible, la résignation inacceptable. Elle avait crié « Je t'aime » comme on crie « Adieu » et « Je ne peux plus te quitter » avec des yeux pleins d'horreur. L'amour, grandi avant eux, avait enchanté leur enfance et gardé leur adolescence des amitiés équivoques. Moins ignorant que Daphnis, Philippe révérait et rudoyait Vinca en frère, mais la chérissait, comme si on les eût à la manière orientale, mariés dès le berceau. Vinca soupira, rouvrit les yeux sans soulever la tête.
« Je ne te fatigue pas, Phil ?»
Il fit signe que non, admirant, si près des siens, ses yeux bleus, dont le bleu, chaque fois plus doux à son cœur, palpitait entre des cils à pointe blonde.
Tu vois, la tempête descend. Il y aura encore grosse mer à 4 heures du matin. Mais nous tenons l'éclaircie, et ce soir, un beau lever de pleine lune.
D'instinct, il parlait d'embellie, d'apaisement, menait Vinca vers des images sereines. Mais elle ne répondit rien.
Tu viendras demain jouer au tennis chez les Jalons ?
Elle dit non de la tête, les yeux refermés, avec une fureur soudaine, comme si elle refusait à jamais le boire, le manger, le vivre.
Vinca, il le faut. Nous irons.
Elle entr'ouvrit la bouche, promena sur la mer un regard de condamné.
Nous irons donc. À quoi bon n'y pas aller ? À quoi bon y aller ? Rien ne changera rien.
Ils songèrent tous deux au jardin des Jalons, au tennis, au goûter. Ils songèrent, amants purs et forcenés, au jeu qui les déguiserait demain encore en enfants rieurs, et se sentirent recrus de fatigue.
Encore quelques jours, et nous serons séparés. Nous ne nous éveillerons plus sous le même toit, et je ne verrai Vinca que le dimanche chez son père, chez le mien ou au cinéma. Et j'ai 16 ans. 16 et 5, 21. Des centaines de jours. Quelques mois de vacances, c'est vrai, mais dont la fin est atroce. Et pourtant, elle est à moi. Elle est à moi.
Il s'aperçut alors que Vinca glissait de son épaule. D'un mouvement doux, insensible, volontaire, elle glissait, les yeux fermés, sur la pente du plateau de rocher, si étroit que les pieds de Vinca ballaient déjà dans le vide. Il comprit et ne trembla pas. Il pesa l'opportunité de ce que tentait son ami et resserra son bras autour des reins de Vinca pour ne se point délier d'elle. Il éprouva, en la serrant contre lui, la réalité bien vivante, élastique, la vigoureuse perfection de ce corps de jeune fille prête à lui obéir dans la vie, prête à l'entraîner dans la mort.
Mourir. À quoi bon ? Pas encore. Faut-il partir pour l'autre monde sans avoir véritablement possédé tout cela, qui naquit pour moi?
Sur ce roc incliné, il rêva de possession, comme en peut rêver un adolescent timide, mais aussi comme un homme exigeant, un héritier âprement résolu à jouir des biens que lui destinent le temps et les lois humaines. Il fut pour la première fois seul à décider du sort de leur couple, maître de l'abandonner au flot ou de l'agripper à la saillie du rocher, comme la graine têtue qui, nourrie de peu, y fleurissait. Il hissa, resserrant ses bras en ceinture, le gracieux corps qui se faisait lourd, et éveilla son ami d'un appel bref.
« Vinca, allons !»
Elle le contempla, debout, au-dessus d'elle, le vit résolu, impatient, et comprit que l'heure de mourir était passée. Elle retrouva avec un ravissement indigné le rayon du couchant dans les yeux noirs de Philippe, ses cheveux désordonnés, sa bouche, et l'ombre en forme d'aile que dessinait sur sa lèvre un duvet viril. Et elle cria
« Tu ne m'aimes pas assez, Phil, tu ne m'aimes pas assez !»
Il voulut parler et se tut, car il n'avait pas de noble aveu à lui faire. Il rougit et baissa la tête, coupable d'avoir, alors qu'elle glissait vers le lieu où l'amour ne tourmente plus avant le temps ses victimes, traité son ami comme l'épave précieuse et scellée dont le secret seul importe, et refusé Vinca à la mort.
Germaine Beaumont, vous êtes romancière, ce qui donne une certaine importance à ce que vous allez dire, car vous allez parler de l'œuvre d'une concert en littérature. Et vous avez été collaboratrice de Colette, une amie de Colette. Et je vais donc vous poser d'abord une question un peu surprenante, peut-être. Le blé en herbe reparaît dans la collection Garnier, collection qui est liée au classique. Donc, c'est une sorte de consécration d'une œuvre de Colette qui paraît sous cette couverture. Croyez-vous que le blé en herbe est celui, parmi les livres de Colette, qui a dû paraître en premier dans cette collection?
Cela, je ne peux pas vous le dire parce que, pour moi, je dirais oui, parce que je connaissais particulièrement bien Colette à ce moment-là, et ce livre est un reflet de la Bretagne, où elle a longtemps vécu avant de l'abandonner pour se consacrer au Midi. Il y a eu donc une cassure dans l'œuvre de Colette, une sorte de cassure qui la ramenait vers des choses en Bretagne, vers une poésie, quelque chose de très particulier que moi, personnellement, je n'ai jamais retrouvé dans ses romans ou dans ses œuvres du Midi. Mais ça doit être une sorte de jalousie. Parce que j'aime pas le Midi, j'aime beaucoup la Bretagne, la Normandie et tous les pays du Nord. Par conséquent, là, je ne peux vous donner qu'une réponse dictée à la fois par l'expérience, par un goût personnel et probablement par une basse jalousie.
Bon, alors c'est tout de même une réponse.
Il est fixé le jour de votre départ pour Paris ?
C'est toujours le 25 septembre que nous devons rentrer. Quelquefois, selon la place des dimanches dans le mois, notre départ tombe le 23 ou le 24 ou le 26. Mais ça ne varie guère de plus de 2 jours.
Oui. En somme, vous partez dans une quinzaine. Dans une quinzaine à cette heure-ci.
Philippe détacha son regard de la mer, plate et blanche, près des sables, au loin couleur de dos de thon sous les nuées basses, et se tourna avec étonnement vers Madame Dalleret. Enroulée dans une étoffe ample et blanche, comme la robe des femmes de Tahiti, elle fumait gravement, coiffée nette, poudrée d'une poudre de la même couleur que sa peau, et rien en elle ne révélait que ce jeune homme, assis non loin d'elle, beau et brun comme elle, lui fût autre chose qu'un jeune frère.
Alors, dans une quinzaine à cette heure-ci, vous serez où ?
Je serai au bois, sur le lac, ou bien au tennis de Boulogne avec des amis.
Il rougit, car il n'avait retenu qu'au bord de ses lèvres le nom de Vinca. Et Madame Dalleret sourit, de ce sourire viril qui lui donnait souvent l'air d'un beau garçon. Philippe se détourna vers la mère pour cacher du moins son visage où paraissait une humeur méchante de petit Dieu fâché. Une main ferme et veloutée se posa sur la sienne. Alors, sans qu'il quittât du regard la mère ternie, une expression d'agonie bienheureuse monta de sa bouche desserrée à ses yeux, dont l'éclat blanc et noir s'éteignit entre les paupières.
Il ne faut pas être triste.
Je ne suis pas triste. Vous ne pouvez pas comprendre.
Elle inclina sa tête aux cheveux lustrés.
C'est juste. Je ne peux pas comprendre. Pas tout. Oh.
Philippe contempla, avec une défiance religieuse, celle qu'il avait délivrée d'un secret redoutable. Ses petites oreilles rougies retentissaient-elles encore d'un cri bas, étouffé comme le cri d'un être à qui on coupe la gorge. Ses bras, riches de muscles à peine visibles, l'avaient porté léger, évanoui, de ce monde dans un autre monde. Cette bouche, avare de paroles, s'était penchée pour transmettre à sa bouche un seul mot tout-puissant, et pour murmurer, indistinct, un chant qui venait écho affaibli des profondeurs où la vie est une convulsion terrible. Elle savait tout.
Pas tout,
répéta-t-elle, comme si le silence de Philippe eût quêté une réponse.
Mais vous n'aimez pas que je vous pose des questions. Je suis quelquefois un peu indiscrète.
Comme l'éclair, oui. Le temps d'un zigzag de foudre, on est bien forcé de lui livrer ce que le grand jour même laisse dans l'ombre.
Et je voulais savoir seulement si vous seriez bien aise de me quitter.
Le jeune homme baissa les yeux sur ses pieds nus. Un vêtement lâche de soie brodée le déguisait en prince oriental et l'embellissait.
Et vous ?
La cendre de la cigarette que tenaient les doigts de Madame Dalleret tomba sur le tapis.
Je ne suis pas en question. Il s'agit de Philippe Audebert et non de Camille Dalleret.
Il leva les yeux sur elle avec l'étonnement que lui causait, encore une fois, le prénom insexué.
Camille. C'est vrai qu'elle s'appelle Camille. Elle pourrait s'en dispenser. Je la nomme en moi Madame Dalleret, la dame en blanc ou elle.
Elle fumait lentement et contemplait la mer. Jeune ? Certainement jeune. 30 à 32 ans. Impénétrable, comme sont les êtres calmes, dont le maximum d'expression ne dépasse pas l'ironie tempérée, le sourire et la gravité. Sans détourner son regard de l'étendue où couvait l'orage, elle posa de nouveau sa main sur celle de Philippe, qu'elle serra, indifférente à lui et pour son seul plaisir égoïste. Sous cette main petite et puissante, il parla, contraint de verser son aveu comme un fruit pressé répand son suc.
Si, je serai triste, mais j'espère ne pas être malheureux.
Oui ? Et pourquoi l'espérez-vous ?
Il lui sourit faiblement, fut touchant, maladroit, tel qu'elle aimait secrètement qu'il fût.
Parce que je pense que vous arrangerez quelque chose. Oui, vous arrangerez quelque chose.
Elle leva l'épaule, haussa ses sourcils perçants. Elle se força un peu pour donner à son sourire la sérénité et le dédain habituels.
Quelque chose. C'est-à-dire, si j'entends bien, que je vous inviterai chez moi comme je fais ici, si cela me plaît encore, et vous n'aurez à vous soucier que de me rejoindre à l'heure que vos obligations scolaires et familiales vous imposeront.
Il se montra surpris du ton, mais soutint le regard de Madame Dalleret.
Oui, que ferais-je d'autre ? Me le reprochez-vous ? Je ne suis pas un petit vagabond libre, et je n'ai que 16 ans et demi.
Elle rougit lentement.
Je ne vous reproche rien. Mais est-ce que vous n'imaginez pas qu'une femme, une autre femme que moi, naturellement, pourrait être choquée de comprendre que vous désirez d'elle une heure de solitude ? Seulement cela ?
Phil l'écoutait avec une attention loyale d'écolier. ses yeux grands ouverts attachés à cette bouche réticente, à ses yeux jaloux qui, pourtant, ne revendiquaient rien.
Non, je ne conçois pas que vous puissiez en être blessé. Seulement cela ? Seulement cela ?
Il se tut, interrompu de nouveau par la même pâleur, la même consternation bienheureuse. Et la tranquille hardiesse de Camille Delray vacilla, mesurant le respect qu'elle devait à son œuvre. Comme ébloui, Philippe laissa tomber sa tête en avant, et ce mouvement de soumission enivra un moment la conquérante.
Vous m'aimez ?
Il tressaillit, la regarda effrayé.
Pourquoi ? Pourquoi me le demandez-vous ?
Elle reprit son sang-froid, son sourire dubitatif.
Pour jouer, Philippe.
Il ne cessa pas tout de suite de l'interroger des yeux, en la blâmant d'être téméraire en parole.
Un homme fait m'eût dit oui. Mais cet enfant, si j'insiste, va pleurer et me crier dans ses larmes à travers des baisers qu'il ne m'aime pas. Vais-je insister ? Alors il me faudra le chasser. Ou bien l'écouter en tremblant et apprendre de sa bouche la limite précise de mon avantage.
Elle éprouva, au niveau du cœur, une petite contraction pénible et se leva nonchalamment pour aller à la baie ouverte, comme si elle oubliait la présence de Phil. L'odeur des petites moules bleues, découvertes depuis 4 heures au bas des rochers et altérées d'eau de mer, entrait avec l'épais parfum de sureau bouilli qu'exhalaient les troènes à bout de floraison. Accoudée, distraite en apparence, Madame Dalleret sentait derrière elle la présence du jeune homme étendu et portait le poids d'un souhait qui ne la quittait pas.
Il m'attend. Il calcule le plaisir qu'il peut espérer de moi. Ce que j'ai obtenu de lui était à la portée de n'importe quelle autre passante. Mais ce petit bourgeois timore et ce gourme, quand je lui demande des nouvelles de sa famille, fait des façons pour me parler de son collège et s'enferme dans un bastion de silence et de pudeur avec le nom de Vinca. Il n'a appris de moi que le plus facile. Le plus facile. Il apporte ici, dépose et reprend en même temps que son vêtement chaque fois cette...
Elle s'aperçut qu'elle venait d'hésiter devant le mot amour. Et elle quitta la fenêtre. Philippe la regardait approcher avidement. Elle lui mit ses bras sur les épaules et, d'une poussée un peu brutale, fit chavirer sur son bras nu la tête brune. Ainsi chargée, elle se hâta vers l'étroit et obscur royaume où son orgueil pouvait croire que la plainte est l'aveu de la détresse et où les quémandeuses de sa sorte boivent l'illusion de la libéralité. Le soleil de septembre miroitait sur les jambes polies et brunes de Vinca, ployées au bord de sa robe blanche. Au-dessous d'eux, une houle inoffensive que la brume en passant avait léchée et adoucie, dansait mollement, prenait par degrés sa couleur de beau temps. Les mouettes crièrent, et un chapelet de barques s'égrena, une voile après l'autre, sortant de l'ombre du manga et gagnant la haute mer. Un chant enfantin aigu, chevrotant, passa dans la brise. Philippe se retourna, tressaillit, et exhala une sorte de plainte irritée. Tout en haut de la plus haute falaise, en côte bleuâtre et coiffée de cheveux roux, un petit garçon. Vinca suivit le regard de Philippe.
« Oui, c'est le petit garçon. »
Phil reprenait son sang-froid.
« Tu parles du petit garçon, je crois, de la marchande de poissons. »
Vinca secoua la tête.
« Le petit garçon qui t'a parlé tout à l'heure. »«
Qui m'a
Le petit garçon qui est venu t'informer du départ de la dame. »
Philippe haït soudain l'éclat du jour. Le sable dur aux reins. Et le vent modéré lui brûla la joue.
« De quoi parles-tu, Vinca ?»
Elle ne s'abaissa pas à répondre et continua.
« Le petit garçon te cherchait, il m'a rencontré et m'a informé la première. » D'ailleurs...
Elle acheva par un geste fataliste. Phil respira profondément, avec une sorte de bien-être.
Ah. Alors tu savais. Qu'est-ce que tu savais?
Des choses sur toi? Pas depuis longtemps. Ce que je sais, je l'ai appris tout à la fois il y a 3 ou 4 jours, mais je me doutais.
Elle se tut. Et Philippe aperçut sous les prunelles bleues, en haut de la fraîche joue enfantine de son ami, la nacre, le sillon des larmes nocturnes et de l'insomnie, ce reflet satiné couleur de clair de lune qu'on ne voit qu'aux paupières des femmes contraintes de souffrir en secret.
Bon, alors nous pouvons parler, à moins que tu ne préfères ne pas parler. Je ferai ce que tu voudras.
Elle réprima un petit mouvement des coins de la bouche, mais ne pleura pas.
Non, nous pouvons parler. Je crois que c'est mieux.
Ils éprouvèrent un amer et identique contentement à distancer dès les premiers mots de leur entretien le lieu commun de la dispute et du mensonge. C'est le fait des héros, des comédiens et des enfants de se sentir à l'aise sur un plan élevé. Ces enfants espérèrent follement qu'une douleur noble pouvait naître de l'amour.
Écoute, Vinca, lorsque pour la première fois j'ai rencontré...
Non, non, pas ça! Je ne te demande pas ça, je le sais. Là-bas, en bas du chemin du Goémon, penses-tu que je l'ai oublié?
Mais il n'y avait rien ce jour-là à oublier ni à retenir, puisque...
Mais passe, passe! Crois-tu que je t'ai amené ici pour que tu me parles d'elle?
Il sentit à l'âpreté simple du ton de Vinca que son propre accent venait de manquer tout ensemble de naturel et de contrition.
Me faire le récit de vos amours, n'est-ce pas? Pas la peine. Mercredi dernier, quand tu es rentré, je t'ai levé sans lumière. Je t'ai vu comme un voleur, il faisait presque jour. Cette figure que tu avais. Alors, je me suis renseignée, tu penses. Sur la côte, tu crois que tout ne se sait pas? Il n'y a que les parents pour ne rien savoir.
Philippe, choqué, fronça les sourcils. La foncière brutalité féminine soulevée en Vinca par la jalousie l'offensait. Il s'était senti capable, en atteignant le refuge suspendu, de confiance amollie de larmes, enclin en effet à de longs aveux. Mais il n'admettait pas cette activité d'écorcher, cette rudesse expéditive qui brûlait les relais pittoresques et flatteurs étendaient vers... Au fait, vers quoi?
Elle va sans doute vouloir mourir. Elle voulait déjà mourir ici même un jour. Elle va vouloir mourir. Vinca, il faut me promettre...
Elle tendit l'oreille sans le regarder. Et tout son corps exprima dans ce mouvement léger l'ironie et l'indépendance.
Oui, Vinca, il faut me promettre que ni sur ce rocher, ni dans aucun lieu de la terre, tu ne chercheras à quitter la vie.
Elle l'éblouit. En lui jetant au visage le rayon bleu de ses yeux grands ouverts, dans un brusque et ferme regard.
Tu dis quitter? Quitter la vie?
Il posa les mains sur les épaules de Vinca. Hocha un front lourd d'expérience.
Je te connais, chérie. D'ici même, tu as voulu, sans raison, te laisser glisser en bas, il y a 6 semaines. Et maintenant...
La stupeur, tandis qu'il parlait, maintenait haut, au-dessus des yeux de Vinca, les arcs de ses sourcils. Elle secoua d'un tour d'épaule les mains de Philippe.
Maintenant? Mourir? Pourquoi?
Il rougit à ce dernier mot. Et Vinca compta sa rougeur pour une réponse.
À cause d'elle? Tu es fou!
Phil arracha d'agacement les touffes du maigre gazon et rajeunit soudain de 4 ou 5 ans.
On est toujours fou quand on cherche à savoir ce que veut une femme et quand on s'imagine qu'elle sait ce qu'elle veut.
Mais je le sais, Phil. Je le sais très bien. Et aussi ce que je ne veux pas. Oh, tu peux être tranquille. Je ne me tuerai pas à cause de cette femme-là. Il y a 6 semaines... Oui. Je me laissais glisser, là, jusqu'en bas, et je t'entraînais. Et ce jour-là, c'était pour toi que je mourrais. Et pour moi...
Elle ferma les yeux, renversa la tête, caressa de la voix ses dernières paroles, et ressembla, avec une fidélité étrange, à toutes les femmes qui renversent le col et ferment les yeux sous un excès de bonheur. Pour la première fois, Philippe reconnut en Vinca la sœur de celle qui, les yeux clos et la tête abandonnée, semblait se séparer de lui, dans les instants même où il la tenait le mieux embrassée.
Vinca. Voyons, Vinca.
Elle rouvrit les yeux, se redressa.
Quoi?
Ne t'en va pas comme ça. En voilà une figure de pâmoison.
Je ne me pâme pas. C'est bon pour toi, les flacons de sel, l'eau de Cologne et tout le tremblement.
De temps en temps, la férocité enfantine se glissait entre eux, miséricordieuse. Ils y puisaient des forces, s'y retrempaient dans une lucidité anachronique, puis se rejetaient vers la folie de leurs aînés.
Je m'en vais. Tu me fais beaucoup de peine.
Vinca rit, d'un rire saccadé et déplaisant, comme n'importe quelle femme blessée.
Charmant ! C'est toi maintenant qui en fait de la peine, n'est-ce pas ?
Mais certainement.
Elle fit un cri d'oiseau irrité, perçant, imprévu, dont Philippe tressaillit.
Qu'est-ce que tu as ?
Elle s'était appuyée sur ses deux mains ouvertes, presque à quatre pattes, comme un animal. Il la vit soudain effrénée, empourprée de courroux. Ses deux panneaux de cheveux tendaient à se rejoindre sur sa figure penchée et ne laissaient place qu'à sa bouche rouge et sèche, à son nez court élargi par un souffle coléreux, à ses deux yeux d'un bleu de flamme.
Tais-toi, Phil, tais-toi, je te ferai du mal. Tu te plains, tu parles de ta peine, toi qui m'as trompée, toi le menteur, toi qui m'as délaissée pour une autre femme. Toi, tu n'as ni honte, ni bon sens, ni pitié. Tu ne m'as amené ici que pour me raconter à moi ce que tu as fait avec l'autre femme. Dis le contraire, dis le contraire, dis.
Elle criait, à l'aise dans sa fureur féminine comme un pétrel sur une rafale. Elle retomba, assise. Ses mains tâtonnantes trouvèrent un fragment de rocher qu'elle lança au loin dans la mer avec une force qui confondit Philippe.
Tais-toi, Vinca.
Non, je ne me tairai pas. D'abord, nous sommes tout seuls et puis je veux crier. Il n'y a de quoi crier, je pense. Tu m'as amené ici parce que tu voulais raconter, repasser tout ce que tu as fait avec elle pour le plaisir de t'entendre, d'entendre des mots, de parler d'elle, de dire son nom, hein, son nom peut-être.
Elle le frappa soudain au visage d'un poing si imprévu, si garçonnier, qu'il faillit tomber sur elle et se battre de bon cœur. Les paroles qu'elle venait de vociférer le retinrent, et sa masculine et foncière décence recula devant ce que Vinca comprenait et faisait comprendre sans détour.
Elle pense, elle croit au plaisir que j'aurai à lui raconter. Oh, et c'est Vinca, Vinca qui imagine ces choses-là.
Elle se tut un moment, et tout ça, rouge jusqu'à la naissance de la gorge. Deux petites larmes glissèrent de ses yeux. Mais elle n'était pas prise encore de la douceur et du silence des larmes.
Je n'ai donc jamais su ce qu'elle pensait. Toutes ces paroles sont aussi surprenantes que cette force que je lui ai vue souvent quand elle nage, quand elle saute, quand elle lance des cailloux.
Il se méfiait des mouvements de Vinca et ne la quittait pas de l'œil. La couleur rayonnante de son teint, de ses yeux, la précision de sa forme mince, le pli tendu de sa robe blanche sur ses longues jambes reléguait à un plan lointain la souffrance presque suave qu'il avait couchée immobile sur l'herbe. Il profita de la trêve, voulut montrer un sang-froid supérieur.
Je ne t'ai pas battu, Vinca. Tes paroles le méritaient plus que ton geste. Mais je n'ai pas voulu te battre. Ça aurait été la première fois que je me serais laissé aller.
Naturellement, tu en battras une autre avant moi. Moi, je ne serai la première en rien.
Cette voracité dans la jalousie le rassura. Il faillit sourire. Mais le vindicatif regard de Vinca lui déconseilla la plaisanterie. Ils demeurèrent silencieux. Virent le soleil descendre derrière le Minga et une tache rose, incurvée comme un pétale, danser à la crête de toutes les vagues. Les clarines des vaches tintèrent en haut de la falaise. À la place où le fatal petit garçon chantait tout à l'heure, une figure cornue de chèvre noire parut. Et Bella.
Vinca, chérie.
Elle le regarda avec indignation.
C'est moi que tu oses appeler comme ça.
Il inclina la tête.
Vinca, chérie.
Ce qui me frappe, moi, lecteur de Colette, c'est son sens du dialogue théâtral dramatique.
Je crois que Colette aurait été, et elle a été dans une certaine mesure, un auteur dramatique très remarquable, parce que l'adaptation de ses pièces au théâtre a été évidemment signée par Léopold Marchand et par des personnes qualifiées, si vous voulez, de métier. Mais il y avait une rapidité, je n'ose pas dire une drôlerie, mais si. Dans la rapidité d'un dialogue, il y a toujours un fond qui touche tellement à la vie qu'on n'a jamais l'impression que l'on écoute une pièce de théâtre, mais qu'on écoute une conversation. Et dans sa conversation, Colette était remarquablement théâtrale, si je peux dire, presque à force de simplicité. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle avait ce sens inouï du dialogue, et du dialogue pris sur le vif, qu'elle a été un si remarquable critique de théâtre. Pendant un certain temps, au Matin, elle a assumé les fonctions de critique de théâtre et elle y a excellé d'emblée, alors que tout le monde espérait, toujours aimablement comme à Paris, qu'elle laisse, comme on dit, se casser le nez. Elle s'est cassée rien du tout.
Comme tout le monde sait, Colette a débuté dans la vie en tant qu'actrice, mais en tant qu'actrice mime. Et ce don de dialogue en est d'autant plus surprenant.
Il n'en est pas surprenant parce que je crois que le bon mime ne parle pas tout haut, mais parle tout bas. Et c'est la raison pour laquelle les très bons mimes, comme était Georges Vague, étaient quelqu'un, son maître, eh bien, était quelqu'un qui jouait la pièce. Ils jouaient tous les deux une pièce dont nous n'entendions pas les paroles. Mais c'est pour cela que c'était si juste pour les mouvements. Je crois que c'est très difficile. Comment pouvez-vous faire des mouvements qui soient justes si vous ne les pensez pas? Et si vous les pensez, vous les parlez.
Et oui et non, parce que, ça je réponds en nom de théâtre maintenant, ce sont surtout les émotions, les sentiments qui dictent le mouvement d'un mime. C'est pas toujours un dialogue entendu intérieurement. Il y aurait peut-être une discussion à engager ici entre les mimes et les comédiens.
Nous n'en sortirons jamais. Pas dans un cadre restreint, en tout cas.
Alors reprenons Colette et écoutons son dialogue.
Eh bien, je dis que le dialogue de Colette est certainement né, bien qu'on ne l'ait pas entendu, de ses essais de mime. C'était en elle, elle se dirigeait intérieurement, elle pensait. Elle était tout entière dans ce qu'elle faisait. Et comme son don principal était l'expression écrite, l'expression parlée, elle n'avait qu'à la taire. Mais elle était là. Elle était là. C'est du moins ce que je pense. Je ne le donne que sous bénéfice d'inventaire.
Exactement. Mais c'est un témoin que nous avons interrogé. Et dans ce sens, votre témoignage nous est très précieux.
Elle disparut. Revint comme un sylphe. Sur des pieds si légers que Phil devina son retour au parfum que le vent portait devant elle.
Qu'est-ce que tu sens donc, Vinca? Comme tu es parfumée.
Parle moins haut. J'avais chaud. Je me suis fait une friction avant de descendre.
Il ne répliqua rien. Mais son attention réveillée enregistra en effet combien Vinca pensait à tout.
Passe, Phil. Je tiens la porte. Ne marche pas dans les salades.
Dans l'encens maraîcher qui montait de la terre travaillée, on pouvait oublier le voisinage de la mer. Une basse muraille de teint compact râpa les jambes nues de Philippe et il tâta au passage les museaux de velours des mufliers.
Tu sais, Vinca, qu'au potager, on n'entend pas les bruits qui viennent de la maison, à cause du bouquet de bois.
Mais il n'y a pas de bruit dans la maison, Phil, et nous ne faisons pas de mal.
Elle venait de ramasser une petite poire tombée, mûrie précocement et musquée par le verre intérieur. Il l'entendit mordre dans le fruit, puis le jeter.
Qu'est-ce que tu fais? Tu manges?
C'est une des poires jaunes, mais elle n'était pas assez bonne pour que je te la donne.
Une telle liberté d'esprit ne dissipa pas tout à fait la défiance vague de Philippe. Il trouvait Vinca un peu trop douce, légère et sereine comme un esprit. Et il songea soudain à cette gaieté étrange, comme échappée de la tombe, cette gentillesse insensée qui teinte dans le rire des religieuses.
Je voudrais voir son visage.
Et il frissonna. À imaginer que la voix sans timbre, les paroles de fillette joueuse, pouvaient sortir du masque convulsé, étincelant de sa colère et de ses belles couleurs, qui avaient affronté le sien dans le nid de rocher.
Vinca, écoute, rentrons.
Si tu veux, encore un moment. Accorde-moi un moment. Je suis bien. Et toi? Nous sommes bien. Oh, comme c'est facile de vivre la nuit, mais pas dans les chambres. Je déteste ma chambre depuis quelques jours, et si je n'ai pas peur. Un verre luisant, si tard dans la saison. Non, non, il ne faut pas le prendre. Bête, qu'est-ce que tu as à tressaillir? C'est un chat qui a passé, voyons. La nuit, les chats attrapent les mulots.
Il distingua un petit rire, et le bras de Vinca lui serra la taille. Il tendait l'oreille à tous les souffles, à tous les craquements, séduit, malgré son inquiétude, par ce chuchotement nuancé qui ne cessait pas. Loin d'appréhender l'ombre, Vinca s'y guidait comme dans un pays ami et connu, l'expliquait à Philippe, lui faisait les honneurs de minuit, et le promenait ainsi qu'un hôte aveugle.
« Vinca, chérie, reviens !»
Elle jeta un tout petit « oh » de crapaud.
« Tu m'as appelé Vinca, chérie ? Pourquoi ne fait-il pas nuit tout le temps ? En ce moment-ci, tu n'es pas le même qui m'a trompée. Je ne suis pas la même qui a eu tant de peine. Oh, Phil, ne rentrons pas tout de suite. Laisse-moi être un peu heureuse, un peu amoureuse, sûre de toi comme je l'étais dans mon rêve. Phil, tu ne me connais pas.
Peut-être que non, Vinca chérie.
Ils trébuchèrent sur une sorte de foin dur qui craqua.
C'est le sarrasin battu. Ils l'ont battu au fléau aujourd'hui.
Comment le sais-tu?
Pendant que nous étions à nous disputer, tu n'entendais pas le battement des deux fléaux? Moi, je l'entendais. Assieds-toi, Phil.
Elle l'entendait. Elle était forcenée, elle m'a frappé au visage, elle m'a dit des paroles sans suite, mais elle entendait le battement des deux fléaux.
Involontairement, il compara à cette vigilance de tous les sens féminins le souvenir d'une autre habileté féminine.
Ne t'en va pas, Phil. Je n'ai pas été méchante, je n'ai ni pleuré ni reproché.
La ronde tête de Vinca, ses cheveux soyeux et égaux roulèrent sur l'épaule de Philippe et la chaleur d'une joue chauffa sa joue.
Embrasse-moi, Phil. Je t'en prie.
Il l'embrassa. Mêlant à son propre plaisir la mauvaise grâce de l'extrême jeunesse qui ne vise à combler que ses propres désirs et la mémoire trop précise d'un autre baiser qu'on lui avait pris sans le lui demander. Mais il connut contre ses lèvres la forme de la bouche de Vinca. Le goût qu'elle gardait du fruit entamé tout à l'heure, l'empressement que mit cette bouche à s'ouvrir, à découvrir et à prodiguer son secret. Et il chancela dans l'ombre.
J'espère que nous sommes perdus. Oh, soyons vite perdus puisqu'il le faut, puisqu'elle ne voudra plus jamais qu'il en soit autrement. Mon Dieu, que la bouche de Vinca est inévitable et profonde et savante dès le premier choc. Oh, soyons perdus. Vite, vite.
Mais la possession est un miracle laborieux. Un bras furieux qu'il n'arrivait pas à dénouer liait la nuque de Philippe. Il secouait la tête pour s'en délivrer et Vinca, croyant que Philippe voulait rompre leur baiser, serrait davantage. Il saisit enfin le poignet raidi près de son oreille et rejeta Vinca sur la couche de sarrasin. Elle gémit brièvement et ne bougea plus. Mais lorsqu'il se pencha honteux sur elle, elle le reprit et l'étendit contre elle. Là, ils eurent une trêve charmante et quasi fraternelle où chacun eut pour l'autre un peu de pitié et l'affabilité et la discrétion des amants éprouvés. Philippe tenait sur son bras, renversé, une Vinca invisible. Mais sa main libre lissait une peau dont il n'ignorait ni la douceur, ni les marques, écrites en relief par la pointe de l'épine et la corne du rocher. Elle essaya de rire un instant en priant tout bas.
Laisse ma belle écorchure. Avec ça, que c'est doux déjà le sarrasin égrené.
Mais il entendit son souffle trembler dans sa voix. Et il tremblait aussi. Il retournait sans cesse à ce qu'il connaissait le moins d'elle, sa bouche. Il résolut, pendant qu'il reprenait haleine, de se relever d'un bond et de regagner la maison en courant. Mais il fut saisi, en s'écartant de Vinca, d'une crise de dénuement physique, d'une horreur de l'air frais et des bras vides, et il revint à elle avec un élan qu'elle imita et qui mêla leurs genoux. Il trouva alors la force de la nommer Vinca chérie, avec un accent humble qui la suppliait en même temps de favoriser et d'oublier ce qu'il essayait d'obtenir d'elle. Elle comprit.
et ne manifesta plus qu'un mutisme exaspéré, peut-être excédé, une hâte où elle se meurtrit elle-même. Il entendit la courte plainte révoltée, perçut la ruade involontaire, mais le corps qui l'offensait ne se déroba pas et refusa toute clémence.
C'était un livre des voix. Aujourd'hui, le blé en herbe de Colette, édition Garnier Flammarion. Lecteur Douchka, Claude Pasquier, Pierre Delbon et Serge Duché, avec un témoignage de Germaine Beaumont. C'était une émission de Bronislav Horowitz, présentée par Pierre Cipriot.
Cette émission a été diffusée la première fois le 2 janvier 1970 sur France Culture.